Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Pour moi, il n'y a pas eu de compète. Je pense que justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, c'était un peu ça.
Non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité. Non. On s'est quand même fait des potes.
On s'est fait des potes, ouais. Non, donc non, pas contre nos potes. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas mal de trucs. Alors, enfin, ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais Anaïs et moi, on fonctionne pas exactement de la même manière. On n'est pas pareil. On est très amis, mais on n'est pas pareil. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le yin et le yang, quoi. Et du coup, sur la première année de médecine, enfin, moi, je me souviens toujours en annat de ce cours où Anaïs prenait les schémas parce qu'Anaïs est beaucoup plus soignée. Et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, c'était un peu ce côté-là de « toi, tu prends les schémas, c'est soigné, ça ira bien, on aura les schémas. » Et puis moi, je prends les commentaires, quoi.
Puis après, le soir à la maison, on regroupe tout, quoi.
Exactement.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'inspirer et t'accompagner dans tes relations. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule.
Je suis Anne-Lise, la créatrice et l'hôte du podcast La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins.
Pour cet épisode exceptionnel, nous avons décidé de travailler ensemble et de te proposer une histoire de médecin, de concours, d'amitié, de musique et de maternité.
Nous recevons Anaïs et Gabrielle. Elles racontent leur histoire, une amitié qui se construit grâce à la musique, qui grandit quand elles choisissent toutes les deux de s'inscrire en médecine, qui se nourrit du quotidien pendant leur colocation au début de leurs études.
Et puis, au début de l'internat, quand la vie de futurs médecins et les projets professionnels prennent le dessus, Gabrielle et Anaïs font évoluer leur relation, mais elles restent un soutien fort et précieux pour traverser les difficultés de l'internat.
Aujourd'hui, ces deux femmes sont bien dans leur travail et c'est dans la maternité que leur amitié s'exprime. Avec Anaïs et Gabrielle, nous avons parlé de complémentarité, de syndrome de l'imposteur et de soutien.
Tu écoutes ici la deuxième partie de leur histoire. Leurs débuts sont à découvrir sur le podcast La Consulte, sorti il y a quelques jours.
Alors si tu veux prendre les choses dans l'ordre, reviens plus tard, écoutez la suite.
Ici on parle avec Anaïs et Gabrielle de l'internat, de leur poste en médecine, de sororité lors des différentes grossesses et de bien d'autres choses.
Merci à elles pour leur temps et leur confiance.
Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Et alors, ça mène ma question suivante. Comment vous avez vécu l'internat ?
Je pense qu'il n'y a pas de mot global. Je pense qu'il y a eu des phases dures, des phases très dures. Moi, je l'ai vécu assez tôt. J'ai eu une phase un peu compliquée dès le départ. Je pense que c'était lié à beaucoup de choses. Au fait que je n'avais pas confiance en moi, au fait que il y a eu une difficulté, en tout cas pour moi, mais ça, je peux le dire maintenant plus tard, c'est que j'ai eu du mal à appliquer ce que j'avais appris et à l'appliquer de façon organisée dans la pratique. Parce que ça, personne ne nous apprend trop à le faire. Et en fait, ça m'a un peu noyée assez vite. Donc, il y a eu cette phase-là qui a été un peu compliquée. Et puis après, on tape du pied au fond de la piscine, comme j'ai l'habitude de dire. Et puis, on remonte, quoi. On remonte et on s'affirme et on se rend compte qu'on vaut quelque chose. Qu'on progresse aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'internat, c'est un certain nombre d'années. En fait, c'est fait pour qu'on puisse être à peu près compétent à la fin. Et qu'en fait, on a l'impression que des fois, quand on commence l'internat, qu'il faudrait qu'on soit hyper fort dès le départ. Sauf qu'en fait, non. Et c'est normal. Ça, moi, je me tue un peu à le dire à mes internes en disant « c'est pas grave si tu sais pas, le tout c'est d'essayer de réfléchir et on réfléchit ensemble et en fait t'as des chefs et ils sont là pour ça ». Donc voilà, après moi mon internat, j'ai découvert aussi l'exercice en ce qu'on appelle centre de périphérie, donc pas les CHU, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré le côté familial, voilà. Mais oui, l'internat, c'est des hauts, des bas, c'est un volume d'horaire qui est intense. C'est aussi voilà, un fonctionnement personnel qu'il faut revoir aussi. Mais globalement, je dirais que ça a été très enrichissant. Ça m'a beaucoup appris sur moi aussi. Et derrière, de savoir aussi ce que je voulais, qui n'était pas forcément ce qu'on m'avait appris ou le modèle qu'on m'avait plaqué depuis le début de mes études. Et ça, c'est chouette pour le coup à la fin.
Moi, l'internat, de façon globale, je l'ai plutôt bien vécu. D'abord, je pense parce que Saint-Étienne, c'est un petit CHU. En fait, on appelle ça d'ailleurs le choix des amoureux, parce que souvent, c'est la région qui est la moins étendue. Et donc, pour deux médecins, qui choisissent cette région-là, c'est...
Et ça permet de vivre ensemble dans la même ville sans avoir à déménager tous les 6 mois, à coordonner ses choix de stage si ton conjoint est aussi interne. Solène, pour tes auditeurs et tes auditrices,
ouais, qui seraient perdus. Après, je veux bien quand même préciser que Saint-Étienne, c'est pas une super ville, quoi.
Et donc, et puis au-delà de ça, en fait, c'est que c'est très familial. Et donc, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait être bienveillant envers les étudiants à l'internat. Ouais. C'est vrai que Lyon, c'est une énorme fac et je me sentais un peu un pion au milieu d'une énorme machine en tant qu'externe. Et là, on m'appelait par mon prénom. On me faisait confiance. Et ça vraiment, ça a été très important pour moi. Donc ça a été plutôt une force. Même si effectivement, ça peut faire un peu peur d'avoir un peu plus de responsabilité, je dirais que, en fait, moi, je l'ai plutôt bien vécu jusqu'à un certain point. Mais voilà, le fait qu'on puisse me faire confiance. Voilà. Et puis d'un certain côté, en fait, j'avais l'impression de pas mériter d'être dans ma spécialité. Un peu le syndrome de l'imposteur aussi, quoi. C'est-à-dire que si j'avais pu avoir la neurologie, c'était, je sais pas, un coup du sort. Et j'avais l'impression de pas être légitime à exercer cette spécialité parce qu'en fait, je l'avais tellement idéalisée que voilà, je me disais maintenant que j'y suis, je sais pas en fait si je suis suffisamment compétente pour l'exercer. Voilà, et donc je pense que si c'était à refaire, je pense que je poserais des milliards de plus de questions, je me ferais moins de nœuds dans la tête, et voilà.
En fait, si je comprends bien, toutes les deux, il y a quand même eu, pendant votre internat, une période où vous avez dû apprendre à vous sentir à votre place. Et est-ce que vous avez des exemples assez concrets de choses qui vous ont aidé?
Aller voir une psy.
Non, mais enfin... Honnêtement,
il faut le dire parce que ça reste encore un gros tabou, la santé mentale des médecins, je pense.
Dire que ce qu'on vivait, c'était, on était légitime de le vivre et que c'était pas grave et que on avait le droit. En fait, on a le droit de que ce soit pas facile. On a le droit de pas être des super humains. Enfin, et aussi, c'est apprendre à se connaître en tant que personne, parce que on n'est pas que médecin, on est des gens, on est des humains, et de se connaître en tant que personne, c'est important pour pouvoir aussi soigner les autres. Et de se dire que, ouais, on n'est pas la même que la voisine ou que le voisin, et que peut-être que l'autre copain, il a des compétences, mais nous, on a des forces aussi. Et justement, c'est ce qui fait que quand on travaille ensemble, ça marche.
Je dirais aussi que, en fait, mais ça, c'est pas que l'internat, je dirais que c'est tout au long de ces études qui sont quand même difficiles. Ça oblige à faire un travail sur soi, c'est sûr. Enfin, à trouver sa place, à trouver sa juste place aussi vis-à-vis des patients, surtout, je dirais même. Parce que je pense aussi, en début d'internat, en tout cas moi, je le prenais très à cœur. Et à mon avis, trop, sans forcément mettre une juste distance par rapport à ce que je pouvais vivre à l'hôpital, voilà. Et puis à ma vie personnelle. Moi, ce qui m'a vraiment... confortée dans mon choix et ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais à ma place, c'est d'avoir pris un an de pause entre guillemets où j'ai fait une année recherche. Enfin voilà, j'ai fait autre chose. Et en fait, j'ai jamais été aussi contente d'aller en garde et de voir des patients et de faire de la médecine. Et c'est vraiment là où je me suis dit non mais en fait, pour rien au monde je changerais. Et en fait, je me sens bien là où j'étais, je me sentais bien, et que en fait je vais y retourner, quoi. Donc ça, c'est aussi le fait d'avoir pu prendre un peu de recul, et puis à l'occasion du coup, effectivement, aller voir une psy.
Je rebondis sur le recul. Après, il y a aussi tout l'environnement qui est très important. Je pense à nos familles, à nous, qui est toujours le cas maintenant. Hein, régulièrement, on s'appelle en disant « Alors écoute, le boulot, là, c'est un peu dur. » Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît le milieu, qui peut t'aider aussi. Et puis aussi les gens qui ne sont pas dans le milieu. Et ça, c'est hyper important. C'est garder vos amis d'avant, même si vous ne faites absolument rien en commun, mais pour avoir, en fait, juste pour se réintégrer dans le monde. Parce que, enfin, moi, il y a quand même un moment où je me disais, c'est bizarre, en société, je n'ai plus rien à dire. Ouais. Parce que je faisais tellement que de la médecine, je pensais tellement médecine que j'avais l'impression d'être complètement inintéressante. Mais du coup, d'avoir des gens autour de soi, donc là aussi, nos conjoints ne sont pas médecins, donc ça, ça aide aussi énormément. D'avoir des gens qui nous réancrent, en fait, dans la réalité en nous disant, bah voilà, des fois, on peut rentrer d'une journée en disant, mais tu te rends compte, il s'est passé ça, c'est super grave, oh là là, je suis super nulle, voilà. Et en fait, la personne qui est en face de toi, elle me dit, mais en fait, au final, les patients vont bien. Oui. Il n'y a pas eu de souci. Non. Bon, bah en fait, c'est pas grave. Ah bah oui. Oui, du coup, effectivement. Enfin,
et puis voilà. Dans le processus...
Et ça, c'est hyper important, c'est de se réancrer dans la vraie vie, entre guillemets.
Ouais, et puis dans le processus des études de médecine, quand même, on vit un peu un concentré de ce que... Une personne lambda va vivre au cours de toute sa vie, que ce soit, enfin, en tout cas, moi j'ai fait un stage de gynéco, de pédiatrie, voilà, de la naissance jusqu'à la mort. On vit des choses qui sont pas faciles, et d'ailleurs c'est ce qui, à mon avis, nous rapproche et forge des amitiés qui sont fortes, mais aussi, du coup, ça peut isoler un peu du reste de nos amis qui n'ont pas forcément vécu des moments difficiles comme on a pu les vivre, enfin, en tout cas à l'hôpital. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment, en tout cas moi, dans mes études, où je me suis dit, mais en fait, si je ne m'oblige pas à garder des amitiés en dehors de mes amis de médecine, bah voilà, après, je vais me couper aussi d'une partie de la société. Et ça, c'est important, en fait, de garder le lien.
Pour rester sur une amie de médecine, enfin, en tout cas, vous avez partagé médecine, même si vous vous connaissiez avant. Vous avez parlé, notamment toi, Gabrielle, tu as dit qu'il y avait eu des moments difficiles, notamment à l'internat. Comment est-ce que vous avez vécu ça ensemble, même si vous n'étiez plus dans la même ville? Comment vous avez réussi peut-être à vous soutenir, à être la l'une pour l'autre?
Le téléphone. Ouais. Moi, je me souviens très bien d'un appel que je t'ai passé en disant « Voilà, ça ne va pas du tout. Là, j'ai besoin de vider mon sac. » Et voilà. Et après, c'est, je pense que c'est aussi des petites attentions. C'est de se dire « Bah voilà, en fait, on s'appelle. On dit en étant honnête, en fait, il n'y a pas besoin de dire « Ouais, ça va un peu moyen. » Mais non, là, ouais, bon, écoute, là, c'est pas top. Et après, c'est des petits messages. C'est on prend un peu plus de nouvelles régulièrement. On s'envoie des petits messages de soutien en disant « Bah, voilà, je te souhaite une bonne journée, j'espère que ça va bien aller. » Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est pas compliqué. En fait, il faut juste admettre que ça va pas trop. Et ça, c'est très compliqué.
Il n'y a pas beaucoup d'amis, en tout cas pour moi, qu'on peut appeler comme ça quand ça va vraiment pas et où on peut vider son sac. Enfin, voilà, sans retenue, sans...
ça, c'est ce qu'on fait régulièrement depuis quelques années.
Non.
Et puis je dirais aussi que en fait c'est un moment où ben on est là pour se soutenir et pour dire ok toi tu te sens nul, tu te sens pas à ta place, pas légitime, etc. Mais en fait regarde tout ce que tu fais de bien, toutes les qualités que tu peux avoir aussi. Il y a l'image parfaite que tu aurais de toi-même, d'une super une super nana qui sait tout faire, qui est hyper efficace, qui fait les choses vite et bien, qui trie, voilà. Et puis en fait, il y a ce que t'es. Et en fait, c'est pas si mal. Et c'est même parfois très très bien. Ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que ben non, t'es pas comme ton collègue qui a ben un travail beaucoup plus conséquent que toi, en tout cas de ce que tu penses. Tu es quand même légitime dans ce que tu fais et ton travail, tu le fais très bien.
Et pas que ton travail d'ailleurs. Parce que ça rejoint la vie, en fait. Je pense que quand on est sur des périodes un peu compliquées dans le travail, en fait, ça répercute aussi, notre vie, enfin notre famille, la relation qu'on a aussi avec nos conjoints. Alors avec nos enfants, je peux pas le dire encore, mais voilà, on verra. Mais en fait, on ramène tout ça aussi dans. Enfin, c'est pas la vie est pas séparée, quoi. Notre boulot fait partie intégrante de notre vie, et du coup. D'avoir quelqu'un comme ça, voilà, qui remette le curseur au bon endroit. C'est surtout ça qui est important. C'est une histoire de curseur, en fait. Mais c'est vrai.
Votre relation amicale, elle n'a jamais pris de coup dans l'aile comme aurait pu le prendre votre vie de famille ou...
Bah, honnêtement, il y a eu des périodes où je pense qu'on communique moins. Parce que j'ai quand même réfléchi en me disant, est-ce qu'il y a un jour où on s'est engueulé?
Et je pense que sur des trucs superficiels, genre le ménage,
à la coloc, parce qu'il y en a une qui n'avait pas fait la vaisselle.
Voilà, ou la vaisselle, ou tu saoules, t'as fini le plat à gratin. Mais honnêtement, je n'ai pas souvenir. Voilà. Et je pense pas parce que justement, on parle beaucoup. Trop.
En tout cas, le travail n'a jamais rendu votre amitié plus compliquée.
Bah, au contraire, je pense. Pour le coup, on n'a pas la même spécialité, mais on travaille dans des structures qui sont assez similaires maintenant. Et je pense que justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a à peu près le même mode d'exercice, alors même si nos journées types ne sont pas du tout les mêmes, fait que du coup, on a ce côté qui peut nous rapprocher.
Quand vous sortez de médecine, votre amitié, elle continue. Vous restez médecin, donc c'est toujours dans votre quotidien. Mais malgré tout, vous n'êtes plus étudiante, vous commencez à travailler. Vos vies peut-être se construisent. Vous avez dit qu'à 25 ans, on commençait à envisager autre chose que juste la vie étudiante festive. Comment votre amitié, elle se transforme à ce moment-là, si elle se transforme?
Je pense qu'on s'est laissé de l'espace pour construire nos vies de couple aussi. Mais en bienveillance, dans le sens où, bah ouais, on a vécu beaucoup ensemble et tout ça, mais là, c'était aussi le moment de... Alors, enfin, sortir de médecine, ça dépend quel moment. Est-ce que c'est le moment à la fin de l'internat ou à la fin de l'externat?
Alors, moi, je connais ni l'un ni l'autre.
Est-ce que c'est la fin du tronc commun? Parce que, en fait, quand on est parti dans nos villes différentes, Anaïs Saint-Étienne et moi, Dijon, je pense que c'était justement le temps à la construction de nos vies. Personnel, de couple, future famille, etc. Mais ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance parce qu'en fait, c'était quelque chose dont on avait besoin toutes les deux. Je dirais pas toutes les sept, mais presque. Parce que là, on a beaucoup parlé de médecine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se voit, on parle de notre travail de manière assez superficielle, comme on parlerait de boulot avec nos autres copains qui sont pas médecins en disant bah, le boulot, ça va comme ci, comme ça. On parle pas de médecine, on parle de nous. Enfin, on parle pas de patients plus que ça.
Alors,
on essaye.
Maintenant.
Après quelques années. Mais non, mais c'est vrai qu'on a gardé juste le fait de parler de nos vies aussi, de ce qu'on vivait aussi en dehors de notre travail, de nos difficultés ou de nos joies, c'est surtout de nos joies finalement en dehors du travail, de la vie, de l'actualité, de ce genre de choses. Et ça, c'est en fait aussi une part importante, c'est-à-dire que si la médecine prend toute la place, bah, effectivement, on ne parle plus des autres choses. Et je pense qu'on a toujours continué à parler des autres choses. Et c'est ce qui fait que bah, ça permet aussi à une amitié d'évoluer et de perdurer, finalement.
À quel moment vous vous êtes retrouvée plus proche que Dijon-Saint-Étienne?
C'est quand tu as fini ton internat et que tu es revenue dans la région.
Ouais, c'est ça.
Donc à la fin de l'internat, moi j'avais pas tout à fait fini encore.
Il y a 4 ans.
Parce que vous avez beaucoup parlé de vivre l'amitié du quotidien, notamment quand vous viviez en coloc. Aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que vous repartagez? En plus, en ce moment, vous êtes toutes les deux en congé mat. Donc peut-être que ça peut arriver de,
alors,
de partager le quotidien. Quoi.
Oui, d'un certain côté, on partage le quotidien. On a un groupe WhatsApp. Et en ce moment...
Les fameux groupes de maman. Vous savez. Voilà. C'est à peu près ça l'idée.
Donc oui, on partage le quotidien. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué là, ces dernières années. De partager le quotidien justement avec quelqu'un d'autre que son conjoint, voilà. Bon ben c'est aussi la vie. Je dirais que les études c'est aussi une chance pour ça, c'est que on peut partager le quotidien avec ses amis quand on fait, en tout cas voilà, ce qui est moins le cas à nos âges. On le partage différemment, quoi. On se soutient aussi différemment, mais c'est chouette aussi.
Il ressemble à quoi votre soutien aujourd'hui?
De la bienveillance. T'es une super maman. Et parce qu'on en a besoin, je crois, en ce moment.
Non, et puis c'est okay. T'apporte des sushis quand je viens te voir.
C'est avoir le frigo rempli quand on rentre de la maternité.
Ouais. C'est ça. Après, on n'habite pas tout à fait à côté. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi. Voilà, ça nécessite quand même une organisation pour se voir encore. C'est, on sait que la nuit a été compliquée, je te mets un petit message en disant que courage, ça va le faire. Et puis. Et confiance, et ça va bien se passer, quoi. Et parce que ça se passe bien, et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien.
Ouais, c'est ça, c'est de la réassurance. Ouais. Et
beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, ce qui est globalement nécessaire en postpartum. Faites ça à tous vos amis en postpartum, à tous les auditeurs. Soyez tendres envers les nanas qui ont eu des enfants, et les papas aussi.
Ouais, on a besoin de douceur dans ces moments-là, et je pense que les amis sont aussi là pour ça. parce que le conjoint, il partage aussi les nuits un peu...
Galère.
Ouais, et donc des habits, ça va être bien. Ça va être bien sur ce plan-là aussi.
Il y a quand même une étape dont on n'a pas encore tout à fait parlé, c'est la fin de l'internat. Et quand il faut prendre une décision sur qu'est-ce qu'on fait après, comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, enfin, il faut savoir que sur ces villes qui sont autour de Lyon, il y a beaucoup, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui partent en se disant qu'ils reviendront après dans leur région. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, sauf que, en fait, moi, c'était pas très prémédité. je suis partie en Bourgogne en me disant, bah, on voit et on s'y installe avec mon conjoint et puis on voit un peu ce que la vie nous réserve. Et c'est vrai que je me suis assez rapidement rendu compte pendant mon internat que, bah déjà, l'exercice en CHU, c'était pas forcément pour moi. Et puis que géographiquement, on était quand même assez loin de nos familles. Mon conjoint a sa famille sur Grenoble. Ça nous tenait quand même à cœur de pouvoir voir nos familles de manière moins lointaine. Donc c'est ce qui a motivé aussi l'envie de revenir dans la région. Pour moi, et puis après, bah, ça a été... Alors moi, j'ai fait un interchu, enfin, donc du coup, un échange où je suis venue à Lyon pendant 6 mois, sur la dernière année, où là, j'ai cherché un poste aussi dans la région, vu qu'il y avait un pied à terre à ce moment-là. Et j'ai trouvé mon poste en Isère, enfin, à Bourgoin-Jallieu, donc qui est pas loin de Lyon, à ce moment-là, en fait. Voilà, donc ça s'est fait un peu envie de revenir, et puis bah, envie de bosser en périphérique. Hôpital de périphérie. Et puis, j'ai postulé voilà, dans plusieurs hôpitaux de la région. J'ai fait des entretiens. Je suis allée un peu voir comment étaient organisés plusieurs hôpitaux. Et puis, j'ai fini par choisir celui-là. Et voilà.
Et tu n'as pas regretté ton choix ?
Non, parce que ça fait 4 ans que j'y suis. Donc, je suis tombée sur une équipe super. Très familiale aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me convient bien. Cet environnement un peu familial, le côté... voilà, on touche un peu à tout aussi. Il faut savoir que les CHU, souvent, on a quand même une spécialité où on pratique la pédiatrie, mais une spécialité au sein de la pédiatrie et quasiment que ça tous les jours dans les gros CHU, mais il en faut. Enfin, c'est essentiel, ce genre de service. Mais moi, j'ai un peu besoin d'être touche à tout aussi. Et voilà. Donc, ça me convient très bien. Et du coup, je compte y rester encore. Alors, pour moi, en fait, ça a été un peu un choix entre une carrière... hôpital universitaire et puis une vie de famille. Et franchement, je dois dire que c'est peut-être la première fois où je me suis confrontée aussi au fait que j'étais une femme et au fait que je voulais des enfants et que ben, ça allait aussi impacter ma vie professionnelle. Et franchement, j'étais un peu en colère de devoir faire ce choix, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un homme. Maintenant, quand même, si. Et donc, en gros, j'avais un poste qui m'était proposé au CHU de Saint-Étienne. On venait d'acheter une maison à plus d'1 heure de route de l'hôpital. Donc, ça a aussi participé à mon choix, hein, c'est clair. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que, pareil, j'ai fait un stage à l'extérieur d'un CHU, en périphérie. Alors, j'en avais déjà fait un au début de mon internat, mais là, j'en ai refait un en fin d'internat, toute fin d'internat, là où je travaille actuellement à l'hôpital de Villefranche. Et vraiment, en termes d'ambiance, de bienveillance au sein de l'équipe, d'intérêt du travail, je m'y suis vraiment totalement retrouvée. Et donc, le choix a été relativement facile à faire finalement. Je me sentais bien à Saint-Étienne, mais voilà, ça m'a permis aussi de me rapprocher bah, de ma famille. Donc voilà, ça a été un choix qui s'est fait aussi avec ce paramètre-là, hein, personnel. Je ne le regrette pas du tout. Et en fait, ça me permet de justement d'être beaucoup plus généraliste dans ma spécialité, entre guillemets. Et voilà, moi, c'est ce qui me passionne. En fait, avec le recul, voilà, c'est pas pour rien que j'aurais fait de la médecine générale si j'avais pas eu de la neurologie. C'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui m'intéressent. Et donc, de garder un exercice dans la neurologie de façon... Enfin, de la neurologie générale, c'est important pour moi. Et c'est ce que je fais actuellement. Et voilà, j'en suis très heureuse.
Et alors, petite question, est-ce qu'on t'a fait comprendre que le poste hospitalo-universitaire, ça allait être compliqué si tu avais envie d'avoir une vie de famille ? Ou est-ce que c'est toi, en regardant peut-être les modèles que tu avais autour de toi d'hospitalo-universitaire, tu t'es dit, oulala, mais si je dois faire comme eux, ça ira pas avec une famille ? Ça vient plutôt de toi ou de l'extérieur ?
Les deux. Très clairement, on m'a dit de façon assez claire, et d'ailleurs venant d'une femme, que, mais attention, si tu veux des enfants, tu vas pas pouvoir tout faire. Donc on me l'a dit vraiment très clairement, hein, voilà. Peut-être aussi ça qui m'a mis en colère. Et d'un certain côté, c'est pas faux, hein. Je veux dire, voilà, c'est des choix, mais pour le coup, c'est des choix qui sont personnels. Et bon, que ce soit avancé comme ça sur le devant de la scène, dans la sphère professionnelle, devant tout le monde en plus. Bon, voilà, c'est pas forcément. En tout cas, je ne l'ai pas très bien reçu, mais du coup, c'est, effectivement, ça m'a fait cheminer aussi. Hein. Après, c'est clair que dans les modèles, quand j'ai eu autour de moi, franchement, les professeurs universitaires, ceux qui ont une vie de famille épanouie, ils se comptent un peu sur les doigts d'une main, quoi. Malheureusement. Franchement, malheureusement.
Et puis, les femmes qui sont PUPH, alors ça vient, hein. Mais c'est des nanas qui vouent corps et âme à la médecine. Ça change, hein, ça change.
Ouais, mais tu te souviens, il y a en P2, donc en deuxième année de médecine, il y a une grande professeure qui prenait sa retraite et c'était son dernier cours. Et elle nous a dit qu'elle regrettait, en tant que femme, d'avoir dû choisir en fait, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et le message était clairement adressé aux femmes quoi. Alors c'était l'ancienne génération, etc. Mais voilà, ça
aide, hein, quand on veut construire une carrière, d'avoir des modèles qui ressemblent à ce qu'on veut faire, hein. Et quand on les trouve pas, c'est plus compliqué, hein.
Non, mais c'est évident. Et je pense que en fait les choses, elles doivent changer aussi. Enfin, elles vont changer de toute manière parce que
il y a pas le choix.
Et puis que maintenant, trouver déjà, il y a beaucoup plus de femmes. Donc voilà, et trouver des gens qui veulent faire une carrière hospital-universitaire en se vouant corps et âme à l'hôpital, franchement, maintenant, ça se compte sur le doigt d'une main, je pense, voire ça se trouve plus trop. Ils vont être obligés de... On a aussi besoin, effectivement, comme tu disais, de modèles. Et quand même, la médecine, c'est un art, entre guillemets, qui s'apprend vraiment beaucoup avec de la transmission. On passe une thèse d'exercice médical, je veux dire, c'est pas une thèse de science qu'on passe. Et donc, je pense que la transmission est très importante et que du coup, il faut vraiment repenser comment on enseigne, enfin, et comment on apprend ce métier sur le terrain, quoi. Et donc, les modèles, ils sont hyper importants et ils sont à repenser, ça, je suis sûre. En tout cas, en centre hospital universitaire. Ouais.
Vous vous installez finalement à une heure l'une de l'autre dans la région lyonnaise, dans le Grand Lyon, on va dire. Et vous décidez de construire votre vie de famille. Comment ça se passe, l'arrivée des enfants? Est-ce que vous en parlez, de vous dire « Oh, on va faire des enfants ensemble, comme ça, ils seront trop copains, c'est trop cool
!» Vous allez nous dire qu'on parle vraiment de rien, mais je pense que non.
Honnêtement, là-dessus, il y a beaucoup de pudeur. Mais même notre vie intime, en fait, il y a beaucoup de pudeur. Par contre, je pense qu'on sait très tôt l'une quand l'autre est enceinte, parce qu'on n'arrive pas à se le cacher. Enfin, voilà. Moi, Naïs, ça a été la première personne à savoir que j'étais enceinte de Léon.
Pareil pour toi. Hein.
Et pareil pour, je crois, pour Iris et Léonore.
Ah oui. Moi, je suis en plus extrêmement malade pendant mes grossesses. Donc généralement, quand j'appelle Gabi et que je lui dis que ça va pas, vraiment pas. En ce moment, en tout cas, ces dernières années. Parce que bon, je suis enceinte. Voilà, il y a généralement la phrase qui... Hop.
Mais non, et là-dessus, je pense qu'on sait qu'on veut des enfants. Je pense que... Alors moi, honnêtement, quand Anaïs a eu Iris, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je me suis dit, ça aurait pu être chouette qu'on ait notre premier ensemble. Parce que ça aurait été rigolo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Léonore et Léon un mois et demi d'écart. Donc, et ça, c'était pas du tout prévu. Enfin, prévu. Pas du tout manigancé. Ouais. Voilà. Manigancé ensemble. Ouais, c'est ça, je pense que c'est... On se laisse de l'espace. Et c'est ce qui fait aussi que, en fait, ces sujets-là, on arrive à en parler quand on veut. C'est pas obligatoire et il n'y a pas à sortir des fois ce qu'on peut penser au plus profond de nous-mêmes, qui sont des choses très intimes avec nos conjoints, finalement.
C'est-à-dire que c'est ça, en fait, on ne planifie pas notre vie ensemble.
C'est ça, ouais.
Non, mais jamais, en fait.
C'est vrai.
Mais on s'accompagne.
C'est ça.
Et on se soutient
dans les décisions.
Mmh. Oui, après, du coup, pour les assumer jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est... C'est la définition de l'amitié aussi.
Est-ce que ça a un côté rassurant de, quand on tombe enceinte, de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre que son conjoint, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des complications, qu'il y ait des soucis, et de garder ça secret pendant au moins 3 mois, ça peut aussi vite nous enfermer, quoi.
Alors, Déjà, je voudrais dire pour les auditeurs, c'est mon côté un peu la femme et le corps de la femme lui appartient, oui, avec son conjoint aussi, parce que faire un enfant, c'est à deux. Il n'y a pas d'obligation de garder ça secret. Je pense que ça, c'est un choix. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de garder le secret 3 mois ou pas culpabiliser de le dire à tout le monde dès qu'on a fait pipi sur un test, quoi. Et ça, c'est un truc qui appartient à chaque personne. Et en fait... les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Et c'est assez sanctuarisé, ça, cette idée de ne pas le dire pendant 3 mois. Effectivement, parce que aussi, après, quand on doit annoncer que finalement, ça n'a pas marché, c'est parfois difficile. Mais en fait, du coup, ça devient complètement tabou. Et justement, on le garde un peu secret. Et en fait, on subit... Enfin, moi, c'est les 3 mois les pires, quoi. Et je les subis. Et on le subit seul. Alors, du coup, moins, quand on se le dit. Mais ça. En fait, je pense que ça, c'est vraiment...
Des choix... Voilà, il n'y a pas d'obligation en tout cas, effectivement. Après, je pense que c'est aussi l'intimité des gens. Enfin, moi, en tout cas, le choix de ne pas le dire avant, ça a été ce côté, garder ce côté intime avec mon conjoint, avec les amis très proches. Parce que quand on fait un apéro et qu'on demande une limonade alors qu'il y a du champagne parce que c'est le nouvel an, c'est compliqué.
Oui, mais par exemple, moi, pour ma deuxième, mes collègues ont été au courant avant ma famille. Parce qu'en plus, on s'organisait pour les astreintes, etc. Et que je me sentais suffisamment à l'aise pour pouvoir le dire. Et en fait, je leur faisais suffisamment confiance aussi pour savoir qu'ils n'allaient pas le dire à tout le monde. Je pense que j'ai mieux vécu ce premier trimestre, sachant que l'équipe était au courant. Et du coup, me soutenir un peu mieux que pour la première où je l'ai gardé pour moi.
Mais pour revenir à la question de base, après oui, c'est aussi important de dire, d'avoir le soutien des copines. Mais ne serait-ce que sur le truc de j'ai la gerbe, ce matin, j'ai mal aux hanches de partout. Après, la grossesse, c'est sympa. mais il y a un côté aussi un peu sororité qui est assez sympa. Alors nous, en plus, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on a la fâcheuse tendance dans notre groupe de copines à faire les enfants en troupeau. Là, on était 4 enceintes en même temps. Pour Iris, il y en avait 5 enceintes en même temps. Donc c'était il y a un côté un peu sororité et pareil, un soutien du quotidien, quoi.
Et puis un soutien dans ce qu'on vit vraiment dans notre corps de femme, qui est parfois difficile à faire comprendre à nos conjoints, même s'ils le subissent un peu au quotidien aussi. mais du coup, ce côté sororité et se soutenir dans les épreuves charnelles, quoi. Les choses qu'on peut ressentir qu'en tant que femme, quoi. C'est quand même super important. Je sais que rien que le fait de savoir qu'on peut en parler, quoi, qu'on a un espace où on peut en parler et qu'on n'est pas seul avec nos nausées.
Et après, sur les trouilles aussi, moi j'appelle ça les trouilles de grossesse, parce qu'on a, je pense, tous et toutes nos trouilles. Pareil, c'est important de pouvoir en parler. Et aussi de se rendre compte que ma trouille ne va pas forcément être la trouille de la voisine. En tout cas, Anaïs et moi, je sais que sur les grossesses, par exemple, on a eu des angoisses ou des choses qui nous faisaient peur, mais c'était pas du tout les mêmes choses. Et du coup, d'avoir quelqu'un finalement qui flippe pas de la même chose que nous, ça nous rassure sur le côté qui nous fait nous flipper. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et puis aussi, tout simplement, le fait de mettre des mots sur ce qu'on peut vivre. Enfin, moi, en tout cas, ça me permet de prendre du recul. Et puis, ça me permet de mieux le vivre, quoi. En fait, c'est super important. Et alors, c'est pas des psys, quoi. Gabi, c'est pas ma psy. Mais c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir une parole totalement libre, avec beaucoup de respect. Mais justement, qui va permettre de voir les choses un peu différemment. Sous un autre angle, et ça permet de passer les épreuves.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est le fait qu'on se ressemble. Enfin, on revient toujours un peu à la même chose. Enfin, je suis désolée, cette interview elle tourne en rond, mais sur le fait que vu qu'on fonctionne pas de la même manière, et ça nous apporte l'ouverture qu'on a besoin aussi quand on a besoin. Et ça, c'est ça qui est précieux et c'est ça qui fait que ça marche.
Alors moi, j'ai une question rituelle de fin sur le podcast. Je vous la pose à toutes les deux, du coup. Quelle est votre tenue de travail
Alors, je devrais répondre le pantalon blanc de l'hôpital et la blouse de l'hôpital. D'ailleurs, j'ai une blouse qui ne s'ouvre pas devant et qu'il faut passer par la tête, ce qui est extrêmement peu pratique.
En effet.
Et sinon, quand je ne mets pas le pantalon blanc, en vrai, moi, je suis très jean basket parce que... Déjà parce que quand je travaillais en néonat pendant mon internat, on m'a toujours dit pas de talons parce que ça fait du bruit et ça perturbe les bébés. Voilà. Donc, c'est une habitude, les baskets. Et puis, c'est tellement pratique. Voilà.
Alors moi aussi, normalement, il doit y avoir le pantalon blanc en plus de la blouse. Bon, à part pendant le Covid, le pantalon, là, en ce moment, on oublie. Voilà. Et sinon, oui, c'est-à-dire que les talons, j'en mets parfois et je le regrette parce que quand il faut courir pour une alerte AVC, ben, franchement, c'est pas très cool. Et après, ben, franchement, l'attirail d'un neurologue qui se respecte, quoi, donc un marteau réflexe, c'est obligé.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu sais, le petit marteau pour taper sur les genoux,
là ?
Ouais.
Ah, ok.
Juste, moi, j'ai oublié, hein, bien sûr, j'ai des stylos licorne, paillettes, machin. Voilà, c'est l'attirail du pédiatre aussi, le petit zigouigou qui fait du bruit.
C'est ça, moi, j'ai le stylo pour demander ce que c'est, pour tester le patient, c'est très important. Le trombone pour piquer le patient pour savoir s'il sent bien. Voilà, donc un peu tous mes outils de torture, voilà.
Et on est d'accord que tous les outils de torture et tout l'attirail de pédiatrie tombent à chaque fois que vous vous penchez en avant.
Tout à fait. Sinon, évidemment. C'est pas drôle.
Et alors, par contre, je tiens à dire quand même que mes poches se vident à peu près proportionnellement à ma confiance en moi qui augmente. Voilà. Et donc, peut-être que à la toute fin de ma carrière, j'aurai mes poches complètement vides. Et que je saurais faire les réflexes sans marteau et faire désigner un crayon sans le montrer. Mais...
Merci Anaïs et Gabriel pour vos réponses.
De rien, avec plaisir.
Quel est votre meilleur souvenir ensemble ?
S'il y en avait un, parce que j'ai galéré, hein, c'est la fois où on a chanté ensemble Black is the Color. C'était les concerts de fin d'année de la chorale gospel du lycée. Et du coup, on a monté ce morceau toutes les deux et... Pour moi, ça a été un moment hors du temps. Hors du temps, hors de tout. On a un peu décompensé, d'ailleurs, après, à la fin. On s'est retrouvés à rigoler comme des bêtas en coulisses. mais c'était... ça fait partie des moments un peu sublimes qu'on a vécu toutes les deux.
Vous nous demandiez s'il y avait une chanson qui nous faisait penser l'une à l'autre.
On y vient après.
Ah. Bon, ben voilà. Et ben moi, j'arrive pas trop à trier.
Comment ça, en 20 ans d'amitié ?
C'est qu'il y en a beaucoup, des jolis moments. En fait, on a parlé des moments durs et tout ça, mais c'est que les moments chouettes, il y en a en paquet aussi, quoi.
Il y en a vraiment beaucoup, peut-être à ton mariage, quand je t'ai vu rentrer dans l'église aussi.
Vous étiez témoin l'une de l'autre à vos mariages respectifs.
Alors, Anaïs était témoin, moi je suis prochainement, future.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est pas encore arrivé.
Mais je pense que oui, ça va faire partie des petites... des beaux moments, quoi. Pareil, à mettre dans l'album des jolis moments ensemble. Ouais.
Et on y vient sur la chanson. Quelle chanson vous fait penser l'une à l'autre et pourquoi ?
Bah moi, Black is the Color, c'est pour moi la chanson qui me rappelle Gabi pour tout ce que tu viens de dire. Voilà, et je pense que c'est vraiment une chanson aussi qui... Du coup, on a dû la travailler, on a passé beaucoup de moments à la répéter, etc. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup rapprochés.
Oui, effectivement.
J'aimerais même rechanter à ton mariage. Ouais. C'est un moment aussi où j'ai l'impression qu'on était vraiment... C'est un peu bête, mais en harmonie, quoi.
Ouais.
Et...
Le mot juste.
Et puis où on s'est vraiment bien complété, quoi. Voilà, et donc à chaque fois que je l'écoute, c'est sûr que ça me fait penser à toi.
Alors moi, j'ai pas mis celle-là. Moi, j'ai mis Stand By Me. On s'éclate à essayer de la chanter a cappella depuis des années, qu'on n'a jamais fini et qu'on y arrive une fois sur deux et qu'on... on n'a jamais trop pris le temps de monter ça ensemble. Mais ouais, moi, c'est plutôt celle-là, parce que c'est vraiment le côté, genre, viens, on chante au coin de la rue, je sais pas où, comme ça, à la One Again. Ouais, et moi, celle-là, elle me fait vraiment penser à toi, mais à chaque fois, dès que les notes, elles commencent. Mais il y en a aussi d'autres, il y a Nantes, toutes les chansons de Barbara, parce qu'Anaïs avait chanté une chanson de Barbara en première, qui s'appelle Nantes, qui est absolument magnifique, et qui est à faire pleurer... La pierre. Donc voilà, moi c'était Stand By Me.
Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre témoignage.
Mais de rien.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans votre relation ?
De la douceur, de la constance.
Ouais, de la constance qu'elle dure.
Voilà.
pas dans notre relation, mais actuellement, quelques bonnes nuits.
J'espère que quand l'épisode sortira, vous aurez quand même au moins eu une bonne nuit. Merci.
Merci à vous en tout cas.
C'est le moment de passer à la boîte vocale. Anaïs et Gabriel se laissent un message l'une à l'autre qu'elles découvrent seulement maintenant. Et on commence avec le message de Gabriel pour Anaïs.
Anaïs, ce petit message pour te dire que tu fais partie des personnes rares qui sont des vrais éclats dans la vie des gens. Le seul problème, c'est que tu t'en rends pas forcément compte. Donc, aie confiance en toi, reste telle que tu es. Tu fais partie des personnes qui sont essentielles à ma vie, où je sais que j'aurai toujours un espace pour m'exprimer, pour parler quand ça va, quand ça va pas. Donc voilà, j'espère qu'on va rester aussi proches et aussi soudés encore pendant les au minimum les 23 prochaines années, comme les 23 dernières années qui viennent de se passer. Mais si c'est plus, ça peut être, ce sera encore mieux. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite plein de bonnes choses. T'es avec ta petite Léonore là, tu nous entends pas. Je te souhaite d'être heureuse avec tes filles qui sont magnifiques, avec ta famille qui est magnifique, avec ton conjoint qui est adorable. Et je serai toujours là, pas loin. Je t'aime fort.
Ma Gabi, bah écoute, c'est l'occasion de te dire à quel point tu es importante dans ma vie. Je ne suis pas très douée pour dire les choses de façon spontanée comme ça, mais voilà, je pense que c'est important que tu te souviennes que tu es une personne d'une grande valeur, pas seulement pour moi, et que tu as toute ta place dans ce monde de fous. Je voulais te dire à quel point j'admire chez toi ta capacité à être attentive aux autres, ta générosité. Tu as toujours une pensée, une parole quand on a des moments difficiles ou même pour le quotidien. Franchement, tu m'impressionnes. Moi, j'ai un peu la tête percée pour ce genre de choses. Je voulais te dire que j'espère qu'on va faire encore un long chemin ensemble. Ça va peut-être être un peu vallonné, voire il va y avoir des montagnes parfois. Hein. Mais j'espère qu'on va arriver à gravir ces montagnes toutes les deux en se soutenant. Et voilà, j'apprécie vraiment notre amitié qui m'enrichit par nos différences. Tu es vraiment une personne unique, une très belle personne qui a une façon unique d'être dans ce monde et voilà, je veux que tu en sois fière et que tu le revendiques et que ce soit pas quelque chose qui te pèse comme ça a pu te peser parfois. Je t'aime, mon ami.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Un immense merci à Anne-Lise et aux filles Anaïs et Gabriel pour leur confiance. Cet épisode, c'était un challenge que je suis hyper fière d'avoir réalisé avec elles. Et si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi, le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, à tes collègues, autour de la machine à café, mais aussi sur les réseaux ou en message privé. Bref, merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Et si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 73 avec Soumeya et Karim, un épisode dans lequel on parle d'amitié de longue date, de pays d'accueil qui devient sa maison et de retrouvailles 20 ans après. En attendant, je te dis à dans 2 semaines dans Friendship. Ciao! Découvre tout de suite un extrait de l'épisode d'Aurore Bévalo. L'épisode arrive dans 2 semaines.
Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est dans une relation toxique en amitié?
Ça, c'est un grand sujet, ouais. En fait. Il y a des red flags, tu vois. Il y a vraiment des choses que tu dois repérer. Et ça, c'est un sujet, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à y faire très attention. C'est un sujet aussi qui me touche. Moi, je vais rentrer un peu plus en profondeur parce que j'ai un passé où j'ai été vraiment harcelée, moi, quand j'étais à l'école. Donc, on va dire que c'est un peu ma spécialité maintenant, ouais. D'apprendre aux gens à
malgré
reconnaître.
Malgré toi.
voilà. C'est ce qu'on appelle la résilience. Hein.
Oui, c'est ça.
D'apprendre aux gens à reconnaître en fait, ces signes-là. Globalement, chacun devrait commencer par apprendre à se connaître. Si tu fais le point sur tes valeurs fondamentales, vraiment, sur ce qui fait que tu es qui tu es et que tu es content d'être qui tu es, et sur tes besoins aussi fondamentaux, ça va t'aider, ça va te servir de boussole Parce qu'à partir du moment où tu vas pas te sentir respecté là-dedans, ou même si tu n'arrives pas à mettre ce mot là-dessus, si tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas OK, que ça cloche, que tu te sens pas bien dans la relation, parce qu'à chaque fois que tu côtoies la personne, soit tu culpabilises, soit tu te sens humilié, soit tu as l'impression que tu n'en fais pas assez, ben là, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser des questions. C'est pas toujours toxique, attention, hein, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et une relation qui est une relation saine, ça ne devrait pas te faire te sentir mal dans ta peau.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.